Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants de petites et moyennes entreprises, co-animée par Alain Marty et Pauline Riglet, en partenariat avec GFIP et JPA International.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de PME Radio. Vous êtes plus de 28 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Merci beaucoup, merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et comme vous le savez, on vous attend pour lire vos réactions sur nos réseaux sociaux. À mes côtés pour co-animer l'émission du jour, Guillaume Dosinel, dirigeant associé de GFIP, et Jean-Philippe Boringer, président de JPA Entreprises. Bonjour Guillaume, bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Pauline.
Bonjour Pauline.
Alors ensemble, nous avons la chance de recevoir Yves Cornu, directeur général de Facility. Bonjour Yves.
Bonjour Pauline.
Alors Yves, vous avez une maîtrise de russe à la Sorbonne ainsi qu'un MBA à l'EM Lyon. On va y venir. Alors Yves, vous avez un sacré parcours, très atypique. Dans les grandes lignes, vous suivez d'abord des études de langue, puis vous faites un passage au sein de l'armée de terre, et puis nouveau virage, vous travaillez pour l'enseigne de vêtements Kiabi, où vous vous occupez différents postes pendant 9 ans. Par la suite, vous avez des expériences dans diverses sociétés comme JB Bernard ou encore B Tampon International. Vous avez vécu quelques années en Suisse, puis retour en France, et vous tombez par hasard en 2017 sur le fondateur de Facility. Alors vous allez tout bien nous raconter, mais quand même, j'ai beaucoup parlé. À vous de me dire un mot quand même sur ce sacré parcours. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué en particulier dans ce parcours très, très divers, très dynamique ?
Effectivement, c'est un parcours passion, un parcours fait de rencontres. Il n'y avait rien de programmé, rien de tracé à l'origine. Et oui, j'ai fait effectivement des études de russe littéraire, donc le truc qui ne sert absolument à rien dans la vie courante quand on ne veut être ni prof ni interprète. Mais c'était une passion. Et donc, ensuite, il a bien fallu rentrer sur le marché du travail. Et c'est comme ça que, par hasard, je suis entré dans la filière textile, donc d'abord dans la grande distribution, puis jusqu'à prendre la direction d'entreprise de tissage de soierie pour la haute couture. Oui. Voilà, un parcours très effectivement atypique et un passage en Suisse qui n'a pas été couronné de succès, parce que parfois une entreprise, ça ne marche pas. Oui. Un retour en France par amour pour me remarier. Et puis voilà, je rencontre il y a quelques années le fondateur de ce qui allait devenir Facility. Et par d'autres fonctions, je suis aussi conseiller au commerce extérieur de la France. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et c'était un projet. Il y avait simplement un projet. Et j'ai apporté ma pierre à l'édifice et on en est là aujourd'hui.
Alors, Facility, qu'est-ce que c'est, se demandent nos auditeurs. C'est le spécialiste des solutions d'inclusion numérique pour les personnes qui présentent des troubles visuels, moteurs ou cognitifs. Vous développez en fait des solutions pour que chacun puisse retrouver de l'autonomie, c'est bien ça ?
C'est exactement ça. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il y a environ un tiers de la population mondiale qui a des difficultés d'interaction avec du contenu en ligne ou du contenu écrit en général, parce qu'ils ne vont pas pouvoir le lire, le comprendre ou interagir avec ce contenu de façon optimale. Ils vont avoir des maladies comme la maladie de Parkinson. Comment voulez-vous cliquer sur une zone de clic toute petite sur un site web si votre main n'est pas contrôlée et tremble de façon tout à fait involontaire? Si vous êtes dyslexique, c'est 10% de la population en France, c'est très difficile de déchiffrer un texte à la première lecture. Si vous êtes daltonien, messieurs, 8% des hommes sont daltoniens, très peu de femmes. C'est compliqué quand sur un site web, vous avez un bouton rouge et un bouton vert pour valider ou infirmer quelque chose. Donc, pour toutes ces personnes, on va apporter des solutions en leur permettant de personnaliser l'affichage d'un site web, d'un intranet, d'un outil métier pour qu'ils puissent effectivement retrouver de l'autonomie dans leur vie quotidienne.
Et Facility, vous l'avez dit, intéresse et concerne beaucoup de monde. Quelques chiffres, c'est une trentaine de collaborateurs au sein de Facility, un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros et des filiales, une filiale au Japon, c'est bien ça, vous nous expliquez ?
C'est bien ça. Je reviens juste du Japon d'ailleurs ce week-end. Donc en fait, quand on a créé Facility en janvier 2018, on a postulé pour être présent sur le salon Vivatech, donc le salon de la tech à Paris au mois de juin. On a gagné le prix de la start-up à impact sur ce salon, ce qui fait que 15 jours après, j'ai été contacté par le gouvernement japonais qui me dit, écoutez, on a vu ce que vous faites via notre veille technologique. Au Japon, on a un problème spécifique spécifique, c'est le vieillissement de la population. On sait que le Japon a une des populations les plus âgées au monde. Ils perdent 1 million d'habitants par an à peu près. Donc, ils vont perdre encore une vingtaine de millions d'habitants d'ici 2050. Et donc, venez nous montrer si votre solution pourrait s'adapter et aux Japonais, et, enfin, la langue japonaise et au monde japonais. Donc, on est parti avec notre petit outil made in Limoges à Tokyo. Et là, l'effet waouh qu'on a eu en France, ben, on l'a eu là-bas également. Alors, quand on connaît les Japonais, ce ne sont pas des gens qui s'enthousiasment de façon très claire d'habitude. Et du coup, ben, on a pris un pari fou. On s'est dit, ben, on ouvre une filiale à Tokyo. Et donc, on a ouvert la filiale à Tokyo en septembre 2018. L'entreprise avait 7 mois.
Bravo, félicitations. Guillaume Dosinel a des questions pour vous, j'en suis sûr.
Oui, alors je prends la balle au bon, puisque au Japon, vous avez constitué une équipe 100% féminine. Quelles ont été vos motivations et quels enseignements tirez-vous de cette expérience dans un contexte culturel très différent, je crois?
Alors, vous l'avez compris, Facility, c'est une société d'engagement sociétal, d'engagement humain. Et quand on sait tous que dans la tech, il y a un énorme déficit de présence féminine, parce que tout simplement, ça remonte à la base, on n'oriente pas les femmes vers ces formations dans les écoles. Et au Japon, le rôle de la femme est quand même assez compliqué encore aujourd'hui, dans un pays où il n'y a pas de natalité, dans un pays où le gouvernement voudrait inciter les femmes à ne pas travailler, mais plus à faire des enfants. On a pris aussi cet engagement un peu moral de donner leur chance à des femmes. Et donc, ma country manager aujourd'hui est une femme, mes commerciales sont des femmes, et on a des tech femmes au Japon. Donc voilà.
C'est une décision militante.
En fait. C'est une décision militante, on peut dire ça.
Vous intégrez dans vos équipes des personnes en situation de handicap ou en réinsertion. Quels sont les bénéfices et les défis de cette politique d'inclusion en interne?
On n'imaginait pas travailler pour des gens qui ont des difficultés au quotidien dans leur vie de tous les jours sans les intégrer dans l'équipe. Donc, bien sûr, tout ce que l'on conçoit est conçu avec des utilisateurs. Hein, c'est vraiment la base. Chaque fois qu'on crée une adaptation différente, on va travailler avec l'association correspondante représentative de ce type de besoin. Et dans l'équipe, ça s'est fait vraiment naturellement. Encore une fois, c'est peut-être un engagement militant, mais on a décidé effectivement d'avoir des personnes en situation de handicap, donc avoir un bâtiment totalement adapté à ces personnes. On a eu des personnes qui sortaient de prison, qui étaient en réinsertion. On a des gens qui ont eu des parcours cabossés, à qui on donne une chance. Et quand on donne une chance ou une seconde chance à des gens, on se rend compte qu'il y a un vrai engagement de leur part, engagement vis-à-vis d'un projet, engagement vis-à-vis d'une entreprise, et c'est vraiment bénéfice pour nous d'avoir cette multiplicité de profils dans l'entreprise.
Comment voyez-vous l'évolution de l'accessibilité numérique dans les prochaines années et quel rôle Facility souhaite-t-elle y jouer?
Alors, on est à quelques jours d'un grand bouleversement, puisque le 28 juin de cette année, le European Disability Act entre en vigueur, y compris en France. Donc, toute entreprise, par exemple, dans le secteur du e-commerce qui fait plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc toute entreprise qui a une billetterie, toute entreprise qui vend quelque chose en ligne, sera obligée d'avoir un site accessible. Donc, c'est une obligation maintenant légale, avec des gendarmes qui ont été nommés, donc l'ARCOM pour tout ce qui est communication, la DGCCRF pour le e-commerce, etc. Donc, il y a une vraie évolution à ce niveau-là. Il faut savoir qu'en France, il y a des textes qui existent depuis 2005, mais qui n'ont quasiment jamais été mis en œuvre ni dans le public ni dans le privé, puisqu'il n'y avait pas de gendarmes jusqu'à présent. Et bon, on sait qu'en France, s'il n'y a pas de gendarmes, on essaye d'y échapper. Il y a une vraie prise de conscience. Là où il y a 7 ans, on faisait vraiment de l'évangélisation sur le sujet, aujourd'hui, quand on s'adresse à un client potentiel, il sait de quoi on parle. Donc, il y a une vraie évolution. Elle est très lente. On est très loin de ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, où à l'américaine, des cabinets sont spécialisés pour attaquer les sites qui ne présentent pas d'outils d'accessibilité. avec le bémol aujourd'hui du retour en arrière sur tout ce qui est diversity and inclusion aux États-Unis. Mais donc voilà, on progresse lentement, mais il y a une vraie prise de conscience en France.
Alors Jean-Philippe Bouringer, vous avez aussi quelques questions pour notre invité.
Oui, effectivement. La première, c'est que vous affichez clairement votre développement, votre stratégie, c'est l'international. Pour quelles raisons est-ce que le marché français est déjà saturé? Est-ce que
alors,
le français européen?
Le marché européen n'est pas saturé. Le Japon, ça a été vraiment, comme je vous le disais, un opportunisme absolument honteux. Mais aujourd'hui, au Japon, on équipe le site officiel du gouvernement japonais, on équipe beaucoup de ministères, les villes de Tokyo, de Kyoto utilisent notre solution. Donc on a eu un vrai succès là-bas. Ce qui nous a bien fait comprendre qu'en fait, que vous ayez la maladie de Parkinson à Tokyo, à Paris, à New York ou à Rio, peut-être que vous serez traité différemment d'un point de vue médical, mais votre problème, il est le même, votre main, elle tremble. Donc, on s'est tout de suite orienté vers un développement international. Pour nous, c'était tout à fait naturel. Et puis, on a pris le parti pour le grand export, donc la filiale à Tokyo, mais on a aussi ouvert il y a peu de temps une filiale à New York, d'avoir des entités locales pour vraiment des questions culturelles, parce qu'un site web japonais n'a rien à voir, ne serait-ce que visuellement, avec un site européen. Quand vous regardez le site du gouvernement japonais et que vous avez des petits choses animées dans tous les sens, vous vous dites qu'est-ce que c'est que ce truc. Mais donc il faut des équipes locales pour arriver à adresser certains besoins. Et bon, je ne m'étends pas plus, mais je pourrais en parler pendant des heures.
Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps.
Oui, alors une autre question sur dans vos actionnaires, il y a les grands majors européens. Pourquoi quelle est leur stratégie? C'est une stratégie d'affichage de...
Alors nous, quand on a déjà, on a eu la chance d'être rentable dès l'origine. Oui. Donc c'est un vrai confort. Et donc quand on a décidé d'ouvrir le capital, on n'avait pas simplement besoin d'argent, mais on avait besoin d'autres choses. Et donc on a ouvert notre capital à des fondations et pas à des groupes. Donc par exemple TF1, Bouygues Télécom, Malakoff Humanis sont à notre capital via leur fondation, parce qu'ils nous apportaient autre chose que de l'argent. Ils nous apportaient des réseaux, ils nous apportaient de la visibilité ou d'autres choses. Mais on a attendu le plus longtemps possible pour leur en donner le moins possible.
Merci beaucoup Yves Cornu d'avoir répondu à toutes nos questions, de nous avoir présenté l'activité de Facility. Merci également à vous Guillaume et Jean-Philippe. C'est allé très vite, c'est déjà la fin de ce numéro de PME Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur notre compte LinkedIn. Et puis nous, on se retrouve jeudi prochain à 14h pour découvrir un nouvel invité. Merci encore.
L'invité de la semaine de PME Radio, une production B2B Radio en partenariat avec GFIP et JPA International.